Ah, mais j'attendais le. Ah, pardon, ça arrive. Ok, très bien, merci. Rebonjour. J'avais oublié de dire, parce que je suis un très mauvais animateur, à la fin de la matinée, que nous fermions le volet musique et que cet après-midi, nous ouvrons le volet cinéma et que je vais démarrer moi-même. Donc en vous présentant un état des lieux, des recherches et des collaborations que nous avons menées dans ce cadre-là. Donc voilà. Et alors avant, j'ai cette petite information pratique aussi par rapport donc au réseau et au PEPR ICAR. Il y a ce lien ici donc vers la plateforme Ariane pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir donc être connecté sur ce réseau ICAR. Voilà. Ah, et je mets ma montre parce que je suis aussi quelqu'un de très bavard qui ne respecte pas les temps. Voilà, donc je me minute moi-même. Alors je voulais commencer par dire que la recherche, souvent, elle n'est pas individuelle. Donc tout ce que je vais montrer, c'est le fruit d'années de recherche, depuis plus de 40 ans maintenant, qui sont menées à l'IRCAM, sur la synthèse sonore en général. Alors moi, je ne suis pas du tout du côté de la synthèse sonore musicale, mais plutôt d'un autre type de son qui est la voix et la parole. La première personne qui a initié, qui a porté ce projet sur la voix à l'IRCAM, c'était Xavier Rodet. C'était Xavier Rodet à l'époque, mais il est toujours vivant. Il est ici, et donc depuis les origines de l'IRCAM, c'est lui qui avait porté ce projet qui était sur la voix et un enjeu stratégique de recherche et d'application artistique. La voix chantée, ça paraît plutôt évident pour ce qui est de l'IRCAM, mais également la voix parlée, et donc la parole, et peut-être pour des enjeux liés au langage, aux structures du langage, donc avec toutes les théories de l'époque sur les... le structuralisme, et à une période donc, où on essayait de réinventer un langage musical en essayant de s'inspirer d'autres langages, et notamment de la linguistique. Donc voilà, il y a tout un panel de personnes. Xavier était le premier, il y a plein de collaborateurs qui ont jalonné mes recherches à l'IRCAM, Axel Rebel, qui est le responsable actuel de l'équipe, et d'autres personnes, je ne vais pas tous les citer. Et donc tout ça c'était pour mentionner qu'on n'est pas tout seul, on est nombreux, et donc on est beaucoup de gens, de jeunes chercheurs qui une fois terminé leur thèse finissent par avoir plein de destins différents, mais donc ils ont tous contribué d'une manière ou d'une autre à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je vais vous passer rapidement, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de la synthèse, mais elle date depuis longtemps. Alors, on pourrait s'interroger sur les raisons profondes qui pousse l'être humain à essayer de se simuler lui-même, peut-être parce que c'est la chose qu'il observe le plus proche de lui, c'est une raison, peut-être qu'il y a des raisons d'ego, psychanalytique ou autre, mais en tout cas, voilà, créer des machines à son image, c'est quelque chose qui jalonne l'histoire de l'humanité, et des techniques et de leur évolution au cours de l'histoire, donc depuis l'automatique au XVIIIe siècle, l'électricité, l'informatique, etc. Je ne vais pas vous passer tous les systèmes, ce n'est pas du tout l'objet du truc. Et on va arriver vers ici, voilà, à une époque plus récente, qui est celle de l'utilisation, alors, dans un premier temps, de systèmes qu'on appelait dits experts, il y a un autre nom qu'on peut appeler modèle basé sur la connaissance, à savoir qu'il y avait de la connaissance humaine, experte, qui était formalisée et implémentée dans des programmes informatiques qui étaient ensuite intégrés donc, dans des algorithmes. Et on suivait ensuite l'ordonnancement de ces règles, on les appliquait et on arrivait à ça. Donc ça, c'était vraiment des modèles basés sur la connaissance humaine. Par opposition à ce dont on va parler peut-être plus en détail aujourd'hui, c'est les réseaux de neurones profonds et tout ce qui est apprentissage par la machine, qui sont des modèles basés sur les données. Au lieu de formaliser de la connaissance humaine et de la programmer explicitement, on va essayer d'extraire cette connaissance directement à partir des données. Et donc on va parler peut-être plus précisément de ça aujourd'hui. Il y a deux. Alors j'ai des mélanges de slides en français et en anglais, vous m'excuserez. Il y a deux paradigmes principaux pour ce qui touche à la génération de la parole. Celle qui est très connue, ou que vous connaissez peut-être la mieux, c'est ce qu'on appelle le text-to-speech, la synthèse de parole à partir du texte. On tape un texte en entrée, on veut qu'une voix le dise en sortie. Vous connaissez les GPS dans l'histoire, c'était horrible, mais c'était une application de ça, pour pouvoir communiquer donc, avec la machine, avec la modalité orale. Donc le principe, il est simple, hein. La modalité d'entrée, c'est un texte orthographique, et ce qu'on cherche à générer en sortie, c'est un signal de parole qui correspond à la prononciation de ce texte. Et l'autre paradigme, qui est peut-être moins évident ou moins connu, c'est, on peut appeler ça la transformation de la parole ou la conversion de la voix. Et là, la modalité d'entrée, c'est plus la même. On a déjà un signal de parole existant et c'est lui qu'on va, chercher à en modifier certaines des propriétés. Donc, même principe. Alors, je vais expliquer ce que c'est après les petites boîtes ED au milieu. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, on a une personne qui est une femme, qui a une émotion qui est plutôt heureuse, et on va vouloir chercher à conserver l'identité de cette personne, mais en changer, par exemple, le contenu émotionnel. Donc, alors moi, je suis attaché à l'histoire des choses. Donc, bah voilà, alors, All This Gold, les premières synthèses à l'IRCAM, et peut-être les premiers programmes informatiques, là, c'est XPECT, qui était un programme qui avait été développé ici, qui était open source à l'époque, sous Linux. Et on faisait des synthèses comme ça. Alors, je ne me souviens plus exactement.
Il a étudié l'informatique à l'université Paris 6.
Voilà, ce n'était pas fou. Et alors, on célèbre cette année le 100e anniversaire de la naissance de Pierre Boulez. Et Xavier Rodet était et quelqu'un avec du sens de l'humour développé. Et donc, il est un peu facétieux, petit clin d'œil.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot.
Voilà, petite blagounette pour Pierre Boulez. Alors, ça prête à rigoler. Bon, c'est vieux, voilà, c'était comme ça que la synthèse était réalisée à l'époque. Mais à peu près dans la même année, donc là c'était 82, avec exactement les mêmes algorithmes de synthèse, on avait des choses comme ça. C'est bien meilleur, on est d'accord. Hein, c'est exactement le même paradigme qui est derrière. Ça paraît fou, parce qu'on se dit, tiens, de la voix chantée, c'est peut-être plus complexe, machin, etc. C'est une voyelle qui est tenue. Synthétiser une voyelle et en moduler un certain nombre de paramètres, en fait, c'est plus facile que de synthétiser de la parole articulée avec des alternances de succession de voyelles, de consonnes, etc. Les mêmes paradigmes. Donc, et encore cet exemple, alors je le redis, hein, mais il est encore impressionnant aujourd'hui, je trouve, par son réalisme. Qui est extrêmement frappant. Donc voilà, alors je vais balayer un petit peu toujours dans l'histoire avant d'arriver aux applications. Je fais un peu de, c'est pas un cours, mais un peu de trucs. Donc les modèles de signaux, qui étaient généralement paramétriques, donc je vais expliquer maintenant les boîtes, c'est simplement, on a ce paradigme de l'analyse et de la synthèse. Mon équipe s'appelle Analyse et Synthèse des Sons, donc c'est assez transparent ce qu'on fait. On a un signal qui arrive en entrée, on va essayer d'en extraire des caractéristiques, là ici à l'époque c'était sous la forme de paramètres par exemple, un ensemble de paramètres, la hauteur, l'intensité etc. de la voix qu'on va pouvoir éventuellement manipuler au passage et ensuite donc, si on conserve les mêmes ou si on les manipule on peut faire la resynthèse donc la synthèse, donc le E c'est pour encodeur et le D c'est pour décodeur, vous comprendrez un petit peu après pourquoi je les ai appelés comme ça et voilà, il y a eu plein de algorithmes, méthodes qui ont été proposées, du vocodeur, vocodeur de phase, les méthodes de Psola ou les modèles sinusoïdes, etc., étaient autant de manières d'essayer de réaliser de l'analyse et de la synthèse sonore, en particulier pour les signaux de parole. Alors, je fais un petit bond dans le temps, mais alors, aujourd'hui, on entend parler de tous les débats autour du clonage vocal, des problématiques de vol de voix, etc., de copyrights, autour donc de la synthèse vocale. Mais à l'époque, on était bien tranquille. C'est pour ça que j'ai appelé ça un long fleuve tranquille. C'est pendant longtemps, la qualité de la synthèse, elle était extrêmement loin des choses qu'on entend aujourd'hui, et extrêmement loin surtout, d'un seuil de tolérance ou de niveau de rendu qui était attendu pour des applications audio professionnelles. Donc je vais vous faire écouter un exemple, qui était une des premières demandes, je crois, qui avait été faite pour refaire la voix de Jean Cocteau.
Rémy de Gourmont disait que chez Edmond Rostand, la chance est une des formes du génie.
J'ai un peu de buzz dans mon truc, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était Jean Cocteau. Et alors on a essayé de le faire de deux manières différentes. C'était au cours des années 2000. Soit par synthèse dite par HMM, donc avec des modèles statistiques, c'était déjà de l'apprentissage, soit par conversion d'identité. Et donc vous allez écouter.
Je me demandais si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas une invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées.
Voilà, donc ça ne marche pas. Ok, on est d'accord. Donc, bah, quand les artistes venaient nous voir, on leur faisait écouter ce qu'on était capable de faire, ils repartaient. Et puis, des fois, ils rigolaient entre deux, les deux. Donc, on n'avait pas ces problèmes-là. On était tranquille entre chercheurs. On pouvait avancer, essayer d'améliorer, etc. Machin. Mais voilà, on n'avait pas toutes, on va dire, toutes les implications sociétales, éthiques qu'il y a autour de ces choses-là aujourd'hui. Même chose en conversion d'identité. Donc là, on avait la voix de Xavier Rodet.
Il se garantira du froid avec un bon capuchon.
Voilà, donc ça c'est la voix de base. Et on essaye de la transformer avec des exemples à disposition de la voix de Cocteau.
Il se garantira du froid avec un bon capuchon.
Bon, on a fait une nasalise, mais pas beaucoup plus, ça ressemble pas trop. Donc voilà, pendant longtemps on était là-dessus, parce qu'on plafonnait, il se trouve que... Et puis même, il y avait des algorithmes d'apprentissage déjà à l'époque, mais il y avait des courbes d'augmentation de performance en fonction des données qui en fait atteignent un plateau assez vite et on ne dépassait pas ce plateau. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer la bascule et la complexité de ce signal de parole qui contient beaucoup de facteurs de variation, des variations liées au langage linguistique, la langue dans laquelle je parle, les phonèmes que je prononce, etc. Paralinguistique, les émotions que j'ai, les attitudes sociales éventuellement, d'autres choses. Et de l'extralinguistique, mon identité, mes origines socio-professionnelles. Si vous êtes phonéticien et que vous écoutez attentivement ma parole, vous entendez que mes voyelles sont un peu ouvertes et vous dites, tiens, il vient peut-être du sud-est. Voilà. Et pour vous la faire courte, donc j'avais fait une frise au début sur la longue histoire vers les réseaux de neurones. Il y a Rob Clark, un chercheur de chez Google, qui a fait un workshop il y a 2 ans, désormais, maintenant. Une histoire très courte. Donc avant 2016, donc c'était les modèles basés sur la connaissance, c'était compliqué, ça ne marchait pas du tout, je vous l'ai fait écouter, on est d'accord. En 2016 est apparu WaveNet, alors il faut un peu d'autopromotion, parce que c'était un modèle qui avait été proposé par les chercheurs de chez Google, qui était le premier vocodeur qui permettait de neuronal, à partir de réseaux de neurones, qui permettait de faire de la synthèse de sons, paroles, musique, etc., de manière ultra réaliste. Et voilà. Et ensuite, aujourd'hui, il disait, ben voilà, on peut faire... de la synthèse d'ultra haute qualité avec n'importe lequel des modèles à la mode qui traînent, à condition d'avoir suffisamment de données à disposition. Et donc voilà, là on a vu dans cette très courte histoire le passage de la connaissance humaine, on formalisait de la connaissance et on l'implémentait dans les algorithmes, à le substituer uniquement à partir de données. J'ai appelé ça dans mon introduction ce matin les modèles feignants, parce que bah, pour extraire de la connaissance, celle qu'on a mis du temps aussi nous-mêmes à formaliser, bah, il faut beaucoup beaucoup de données. Et ces modèles basés sur les données, ben, ils ont cet avantage, donc c'est là où on va prendre cette fois-ci ce formalisme qui est des réseaux de neurones qu'on appelle des encodeurs-décodeurs. On encode de l'information et on va utiliser cette information ensuite pour resynthétiser le signal. Donc c'est le même principe tout à l'heure, analyse-synthèse. Là on a un sac de nœuds qui est tous les paramètres, donc de facteurs de variabilité que j'ai mentionnés avant, qui sont intriqués, mélangés ensemble dans un signal de parole. Et on va essayer d'encoder de manière différenciée de l'information qui fait du sens pour nous, donc interprétable. Ici, par exemple, distinguer le contenu linguistique, les phonèmes que je prononce, le texte, de l'identité du locuteur et de mon état émotionnel. Toujours pareil, une fois qu'on a ça, donc c'est un codage, qui est une manière compressée de représenter l'information qui est contenue dans le signal, on va essayer de passer au décodeur, et qui va essayer de resynthétiser le signal d'entrée. Si on fait bien le travail, c'est transparent, et si on fait encore mieux le travail, quand on modifie ensuite, quand on se balade dans ces espaces vectoriels, de vecteurs ici, là, les différentes dimensions, on va être capable de contrôler ce qui va être produit lors de la synthèse, changer l'émotion par exemple. Donc en très court, c'est simple, et pour faire ça, bah, en fait, il ne faut pas un signal de parole, il en faut énormément. Voilà. Et plutôt de bonnes données. Donc la quantité et la qualité des données est essentielle dans ces choses-là. Je vais balayer rapidement les recherches qui ont été faites à l'IRCAM là-dessus. Donc on en a plein sur la conversion d'identité avec différentes stratégies. Donc nous, on a essayé de faire de ce qu'on appelle l'apprentissage de représentation démêlée, comment faire en sorte d'apprendre ces codes et que chacun de ces codes encode explicitement l'information qu'on souhaite qu'elle encode et pas autre chose. Donc c'est ce qu'on appelle ça, on utilise des techniques d'apprentissage adversarial, mais voilà, je vous passe les termes techniques. C'était une manière de faire. C'est des algorithmes qu'on a encore aujourd'hui et qui sont opérationnels sur les exemples d'applications que je vais vous montrer. Et d'autres applications donc, qu'on avait sur la conversion d'identité, j'ai quelques exemples. Sur la conversion d'identité dans des langues différentes, j'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas les passer parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais 3 heures, avec plaisir, mais j'ai 30 minutes. C'était assez rigolo parce que dans ces essais qu'on avait faits, en fait, on essaye de transformer un locuteur français pour dire de l'anglais, et en fait, il va parler anglais, mais avec un accent français. C'était un effet de bord, non souhaité, mais c'était assez amusant de le constater. D'autres choses encore, on voulait aller plus loin que démêler, par exemple, séparer l'information de l'identité de ma voix du texte que je prononce, et d'aller de séparer dans cette identité, du point de vue de la machine, le genre. Est-ce que c'est plutôt féminin ou plutôt masculin ? Conceptuellement, ça paraît extrêmement bizarre. Est-ce qu'on peut représenter une identité non genrée ? Du point de vue de la machine, oui. On y a réussi. Et là, on a quelques exemples. Je vais peut-être vous les passer. On avait une voix originellement identifiée comme masculine.
This is a complex and detailed report.
Et on l'avait changé, donc l'attribut de genre, pour la féminiser.
This is a complex and detailed report.
Voilà. Pour la machine, c'est la même identité, mais on a changé de genre. Et on s'était amusé, en outre, à grader, par exemple, être capable d'interpoler de très masculin à très féminin, avec un certain nombre de... Ça se passait plus ou moins bien, et plutôt pas bien, pour tout vous dire. Parce que dans les bases de données, on a des voix très féminines et très masculines, et on a un trou au milieu. Malgré toute l'intelligence ou l'efficacité de ces algorithmes d'apprentissage, ils ne savent pas encore, ou il faut rajouter d'autres contraintes ou d'autres connaissances pour pouvoir combler ces trous. C'est l'un des défis toujours actuels par rapport à ces choses-là. Donc, alors j'ai un exemple qui en vaut plein, c'est de mes étudiants de cette année qui ont fait ça, et c'est amusant.
Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes des beaux, le beau temps sortir. Hein? Si tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Ouais. Je ne vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes des beaux, le beau temps sortir. Hein? Si tout le monde joue des rôles, on aurait vendu millions d'euros. Ouais.
Clique clone, je t'avais promis qu'un jour tu te rappellerais de nos tels. Je me suis tenté de me taire, de la primaire au lycée des primes, et je me sens déprisonné parce que les professeurs voulaient toujours noter.
Pour consommer les cours, et tu étais différent de tous ceux qui me disaient soit tu subis, soit tu mets les coups.
Moi je rêvais d'aventure, qui prenait les devantures, j'attaquais tous ceux qui mettaient des fontures. Rien à péter de toutes leurs émissions télé devant Dieu. Je voulais voir le monde avant d'être mon abonné de mon Dieu. Et pour ne pas être de marque de moi, je vous qui les encaissais pendant que les gars dans mon âge, je parlais de voitures, vers des gaz de l'époque. Ah,
mince, je me suis divulgaché. Est-ce que vous aviez reconnu qui rappait? Alors il y avait moi. Je ne sais pas si vous m'avez reconnu, mais il y avait un guest, il est là, c'est notre président de la République, Emmanuel Macron. Donc je déroule jusqu'à la fin.
Des armes à l'école.
Des armes aujourd'hui, la gamanine.
Des armes à l'école.
J'ai des sorties d'un voir avec ta gueule.
Oui,
mais j'en ai qu'un à plus de votre code.
Oui.
Vous savez peur, je l'ai dit, mais c'est un pire, je l'ai dit, mais c'est...
Donc voilà, ça c'est ce qui est possible de faire aujourd'hui. Ce n'est pas les algorithmes IRCAM, mais il y en a beaucoup qui sont... C'est très compétitif, il y a des qualités, donc avec une qualité de rendu qui est possible aujourd'hui, qui est excellente, disons-le, ou quasiment excellente, et en l'occurrence, adaptable à partir de peu de données de voix. Alors, Emmanuel Macron, c'est facile d'aller récupérer des données de qualité hétérogène sur Internet, il y a beaucoup d'allocutions, etc. Moi, j'avais donné 15 minutes de ma voix, et ça donnait des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de... c'est anecdotique, mais c'est intéressant pour savoir. Le temps file. Ok, alors je vais aller très vite là-dessus. Ça, c'est les modèles actuels que nous développons sur la synthèse. Alors, je vais peut-être le skipper directement. Pas d'explication, malheureusement. Tac, 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 voilà. Par contre, je vais juste vous faire écouter ça. Donc, c'est la synthèse aujourd'hui, actuellement, qu'on est capable de faire à l'IRCAM pour la lecture de livres audio, si j'y arrive.
Once upon a time, a girl named Cinderella lived with her stepmother and two stepsisters. Poor Cinderella had to work hard all day long so the others could rest. It was she who had to wake up each morning when it was still dark and cold to start the fire. It was she who cooked the meals. It was she who kept the fire going. The poor girl could not stay clean from all the ashes and cinders by the fire. What a mess! Her two stepsisters laughed. And that is why they called her Cinderella. One day, it news came to town. The king and queen were going to have a ball. It was time for the prince to find a bride. All of the young ladies in the land were invited to come. They were...
Donc on est capable de faire de la synthèse sur le long cours, ce qui n'était pas possible pendant longtemps, c'était de la synthèse par petits bouts de phrases isolées, etc. Maintenant, et de manière, on va dire, contextualisée, c'est-à-dire que là, on a une histoire, c'est Cendrillon, et voilà, on le lit, la voix qui le lit avec une interprétation qui semble en tout cas expressive et avec une expressivité appropriée par rapport à la lecture du texte qui est en train d'être lu. Et ces algorithmes-là, maintenant, fonctionnent en zéro shot... voice cloning, donc on peut à partir d'un échantillon d'une voix cloner votre identité vocale et faire de la synthèse avec. On parlera des implications après éthiques et réglementaires. Donc on applique ça aussi pour de la synthèse multimodale, donc avec un doctorant, salut Théo. J'aurais pas le temps de présenter du tout du coup ce slide, mais c'est pas grave. Voilà, donc on fait pas que la parole, on associe le geste à la parole et avec le même principe, mais donc du coup on doit rajouter de la multimodalité dedans et la complexité de comment on synchronise les modalités ensemble, le texte, l'oral et le corporel. Voilà, donc c'est des sujets passionnants sur la simulation et la reproduction de comportements humains. Voilà, on passe. Je vais passer donc dans cette phase-là, et c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc, c'est les applications artistiques, et je vais dérouler, on va dire, un certain nombre d'expériences et de la démarche qu'on a, avec Axel Rebel notamment et dans l'équipe, de collaboration artistique sur des projets. Les missions qu'on s'était posées, c'était de créer des nouveaux moyens d'expression. À disposition de l'artiste, de quels que soient ses moyens, qu'ils soient naturels, comme c'était le cas avant, numériques, et désormais en utilisant l'intelligence artificielle, et pour décupler les possibilités de création et de manipulation, en l'occurrence de voix. Donc sculpter, ce matin, Stéphane Lettner a dit, comme de l'argile qu'on arrive à modeler, etc. Il y a toujours cette idée derrière qu'on arrive à manipuler finement avec les doigts le contenu qu'on cherche à réaliser. Manipuler, hybrider, augmenter tous les mondes de sons qui sont possibles. Et pas nécessairement, et ça je reviendrai dessus, restreint sur des applications de la simulation réaliste, ça c'est pour moi c'est un point de départ, j'en ai là-dessus, mais aller au-delà, c'est un point de départ pour aller vers les au-delà du son. Et donc évidemment là-dedans, on va voir dans les différents exemples que l'artiste il est fondamental dans ce processus et pour différentes raisons que je vais expliciter. Alors, un exemple connu, on ne va pas le passer, vous l'avez tous vu. 1994, Farinelli, recréation de la voix d'un castrat par mélange de voix de deux chanteurs, contralto, soprano. Ça avait fait grand bruit à l'époque et ça reste encore une signature hircamienne qui est un jalon. Et en fait, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que finalement, l'IRCAM s'est reconnu pour ses applications musicales, évidemment, c'est ici que c'est sa mission première, mais il y a eu toute une histoire de collaboration dans le cinéma, et j'y contribue depuis que j'y suis, depuis environ 20 ans maintenant, pour pousser justement, je parlais des archipels du son aujourd'hui, j'ai fait un petit pont, il n'est pas très solide encore, avec les sound designers du cinéma. Et donc on a eu une succession de collaborations diverses et variées, ici sur Les Amours d'Estrée et Céladon d'Eric Rohmer, où on voulait transformer donc, Andy Gillet, qui est l'acteur masculin, voulait aller voir sa belle dans un couvent mais qui est interdit, dont l'accès est n'autorisé qu'aux femmes, donc il doit se grimer, et pour le grimer en fait on l'a grimé artificiellement. Alors pourquoi il était venu nous voir, enfin, pas lui mais le réalisateur, c'est que finalement c'est plus que de l'intérêt pour la technique ou le défi ou le spectaculaire des rendus, car à l'époque on n'en parlait pas du tout, d'ailleurs c'était même pas dit dans la presse, etc., qu'on avait fait pas de débat, pas de polémique, rien, mais on avait artificiellement changé une voix. C'était pour le confort de l'interprète, L'interprète, il peut changer sa voix, il peut parler comme une fille, comme ça, etc. Mais un, ça, peut-être qu'il ne le fait pas bien, et deux, ça gênait le spontané ou son aisance de son interprétation. Donc ça le détournait de son rôle, finalement, pour se focaliser sur autre chose. Donc utiliser la technologie dans ce cadre-là, ça permettait au comédien d'être pleinement à l'aise et focalisé sur son interprétation, et de donner le petit coup de pouce qui va pour le féminiser. Un petit peu plus loin, et c'est là où je fais le pont donc, avec les sound designers au cinéma, c'est la rencontre avec Nicolas Becker, qui fera une présentation après, dans une collaboration avec l'artiste plasticien Philippe Parreno. C'est la première fois que nous avons recréé, avec succès cette fois-ci, on n'est plus Jean Cocteau, mais on est bien après aussi, on est quelques années après, une voix iconique, celle de Marilyn Monroe. Et là, j'ai explicité comment c'est fait. Ici, c'est la vraie Marilyn.
What's the matter with him? What did I do? Oh, I'm terribly sorry, Shotzi, really I am. I was just so anxious to tell you the news. We're going to be married.
Alors la vraie, est-ce vraiment la vraie? C'est la Marilyn qui joue, c'est des extraits qu'on a dans des films. Or, l'artiste souhaitait avoir accès à la Marilyn de l'intime, l'authentique, qui elle n'était pas, ou la Marilyn ou Norman Jean, si je puis dire. Et bah, pour ce faire, on a utilisé des techniques de transformation pour hybrider à partir d'une comédienne et d'algorithmes de transformation pour recréer une identité vocale. Ici, c'est la comédienne qui avait été sélectionnée aux États-Unis pour son timbre.
In the opposite corner. There is a mirror. Under the mirror, on a console table, there is a copy of a small Rodin sculpture of a nude woman. A floor lamp.
Voilà. Et ensuite, transformer.
In the opposite corner, there is a mirror. Under the mirror, on a console table, there is a copy of a small Rodin sculpture of a nude woman. Floor lamp, a black telephone.
Voilà. Alors, c'est pas juste un changement de hauteur moyenne, hein, c'était un par apprentissage sur les enregistrements de Marilyn dans les films, et puis après on avait modéré un peu nuancé ces accents exagérés qu'il y avait dans les films. On faisait donc un recontour, on redessinait les contours intonatifs de la comédienne. Ici, on va avoir un extrait du film directement, donc on voit le rendu définitif dans ce film.
In the opposite corner, there is a mirror. Under the mirror, on a console table, there is a copy of a small Rodin sculpture of a nude woman, a black telephone, and a perfume bottle. In the corner, on a teak tray card, a transistor radio, portable tape deck, and an arrangement of golden yellow lilies and white roses. And there is a record player on the floor.
Donc voilà, alors ça c'est une application, pour moi c'est la plus réussie, alors, c'est pas la technologiquement la plus élaborée. Et en l'occurrence, il n'y avait pas de réseau de neurones, mais poétiquement, il y avait cette recréation en fantôme d'une voix qu'on ne connaît pas, à laquelle on n'a pas accès, et les gens qui connaissaient de son vivant Marilyn et qui avaient assisté à cette avant-première étaient vraiment émus par le frappé, par le réalisme, et rencontrer une voix de quelqu'un qui a disparu. Alors, on bascule de tout au tout, alors on n'est plus dans le même champ artistique. L'Hôtel du Temps, l'émission de Thierry Ardisson, qui avait dit lui-même qu'il avait interviewé tous les vivants, donc il ne lui restait plus que les morts, a eu ce concept d'utiliser de l'intelligence artificielle et des deepfakes pour recréer des interviews avec des personnalités décédées. Ici, donc une collaboration avec Arcam Amplify, et la société MacGuff qui s'est occupée du deepfake visuel et nous du deepfake vocal. Donc, le premier extrait, c'est la comédienne maquillée, apprêtée, etc. en contexte, mais non deepfakée. Et le deuxième, ce sera avec le deepfake.
Vous savez, le plus dur, ce n'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre.
Voilà. Et donc, après deepfakeisation, alors attention, ça va être fort, là.
Je me sens vivre.
Vous savez, le plus dur, c'est pas de mourir. Le plus dur, c'est de recommencer à vivre.
Voilà, donc là, cette fois-ci, on est dans les réseaux de neurones. On atteint un degré de réalisme visuel et sonore qui devient excellent. Et des collaborations dans ce cadre-là, on en a eu plein. On a participé plutôt à des films documentaires sur le procès du maréchal Pétain, jugé Pétain, l'appel du 18 juin, dont on a recréé avec le monde la voix l'appel du 18 juin, le vrai, celui dont on n'avait pas d'enregistrement, et donc avec François Morel, qui était le comédien qui incarnait et qui a été transformé. Et donc cette collaboration avec le monde était là pour expliciter en fait toute la chaîne, tout le processus de comment on recrée. Donc aller rentrer dans la machine et de regarder qu'est-ce qui est nécessaire de faire si on veut recréer des archives en utilisant les moyens de l'intelligence artificielle. Plus récemment encore, la voix d'André Breton pour l'exposition du surréalisme qui était au Centre Pompidou mais qui est terminée maintenant, qui était très belle. J'espère que vous êtes allé la voir. Et puis ensuite, voilà. Alors ça, c'était des premières applications réalistes. Mais ce qui intéresse les artistes, comme ça a été dit déjà, c'est un peu de détourner les algorithmes, les pousser dans leurs limites, trouver leurs artefacts, etc., etc. Alors ça, on sait très bien faire, et on s'amuse beaucoup. Là-dessus, je vais vous faire écouter juste un son qui est celui-ci. C'est la synthèse de Cendrillon, mais inconditionnée. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas de texte, on ne lui donne pas de voix, et on lui dit « fais ce que tu veux, tu as 30 secondes ». Et voilà comment elle remplit 30 secondes.
Donna Estefani. The kind gentleman's wife, often observed in conversation with Leocadia at a session with Leocadia. A kind Donna Dana Estefani. The kind gentleman's wife, often observed in conversation with Leocadia. The kind gentleman's wife, often observed in conversation.
Voilà. Donc c'est un peu malaisant. On est un peu dans la vallée de l'étrange. C'est un peu obsessionnel, parce que ça répète beaucoup les choses. Mais ça, c'est le fonctionnement des algorithmes qui veut ça. Et donc, c'est ce genre de choses-là qu'on commence à aimer vouloir explorer. Un exemple, alors là, je vous laisse le flasher, la thèse de Frédéric Bousse sur la transformation neuronale de la voix chantée. Il a fait ici un Farinelli Improviser. Donc, c'est un Farinelli 2.0, si je puis dire, avec une autre artiste, Judith Deschamps, qui voulait justement avoir une espèce de refaire du Farinelli dans une toute autre esthétique, mais être capable donc de créer des chants avec des tessitures incroyables, mais qui sonnent totalement de manière réaliste, ou une tessiture incroyable, ou alors une technique vocale inaccessible à un être humain pour des histoires d'une limitation physique ou autre. Donc ça, c'est tout à fait le genre de choses intéressantes dans lesquelles on aime aller. Et puis, je voulais quand même dire aussi qu'on peut faire des choses super bien, de manière très simple, il n'y a pas besoin d'IA très poussée. Et là, c'est un petit clin d'œil à Norbert Schnell, qui était chercheur à l'IRCAM dans les années 2000, même 2010. Son outil Mosaiking, alors je ne sais pas s'il est toujours opérationnel, mais moi, j'avais joué un petit peu avec. Et on pouvait recomposer de la voix avec à peu près n'importe quoi. C'est de la synthèse granulaire, donc c'est vraiment bête et méchant. Voici la voix.
75. Elle se garantira du froid avec ce bon capuchon.
Voilà, on avait
Annie s'ennuie loin de mes parents.
On avait des phrases vraiment super intéressantes. Elles devaient être neutres, donc il fallait les enlever du contenu de la coloration émotionnelle, donc c'était pas fou. Et avec des échantillons de flûte, donc je vais pas vous les faire écouter, mais le résultat, la recomposition de cette phrase à partir de grains de flûte. Alors je vous ai conditionné parce qu'on a écouté la vraie phrase avant, donc j'ai triché, mais c'est pas mal. Et pour le sound design, etc., il y a plein d'exemples comme ça, assez fou. Donc tout ça pour dire ça aussi, pour quand on veut faire du sound design, il n'y a pas besoin d'avoir des usines à gaz extrêmement poussées. Des moyens très simples peuvent arriver à des très bons résultats également. Et je veux en finir avec ça, ou presque ça. L'iceberg de la création, alors on montre toujours les exemples qui fonctionnent. C'est ceux qui sont en haut. Mais en fait, pour 5% de succès, il y a 95% d'échecs. Et eux, ils tombent un peu en, comment dire, dans nos tiroirs. Et c'est le risque, hein, quand on fait une démarche expérimentale, on a un artiste qui vient avec des besoins, etc. On essaye de les comprendre, on essaye d'apposer des réponses avec les moyens techniques qu'on a, un peu ce que j'appelle du sur-mesure. Quand ça marche, c'est très bien. Souvent, ça n'aboutit pas. Et ça a été le cas pour beaucoup d'exemples, hein, pour différentes raisons. Alors moi, ce qui m'intéresse personnellement, ce n'est pas que le produit final, mais c'est aussi tout le processus de création et aussi les raisons qui font qu'à la fin, on va utiliser ou non le résultat d'une transformation ou d'une synthèse. On peut faire des très belles synthèses et ne pas les utiliser. Donc là, j'ai listé un petit peu qu'est-ce qui intéressait les artistes et souvent, ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas été utilisé. Corriger des accents étrangers, alors le rajouter ou l'enlever. Le chant, donc faire chanter juste une personne, une comédienne, créer l'illusion d'une chanteuse professionnelle. On a eu une collaboration sur Annette, c'est un bon exemple d'un essai qui a été fait et qui n'a pas été utilisé au final, même si le rendu était extrêmement spectaculaire. Mais voilà, il y a des choix esthétiques qui s'opèrent. Voilà. Et changer le genre et l'âge, ça c'est vraiment un grand classique dont on va peut-être parler plus tard. Ça, et ben voilà. Alors, d'autres raisons de voix non utilisées, je vous présente Isaac Asimov, mais je ne vais pas vous le faire écouter. On avait travaillé là-dessus, on avait recréé la voix par deepfake d'Isaac Asimov en anglais, ça fonctionnait très bien. C'est un documentaire qui a été diffusé, je ne sais plus, L'étrange testament du père des robots. Mais l'ayant droite, qui est sa fille, a refusé l'utilisation du deepfake vocal dans le film. Donc, pour des raisons qu'elle avait expliquées de préoccupations d'ordre philosophique quant à l'utilisation des deepfakes. Alors, ce qui était intéressant, c'est que finalement, elle avait validé le deepfake visuel, mais que la voix, ça posait plus problème. Alors ça, on peut réfléchir. Est-ce qu'il y a un aspect dans la voix qui est plus peut-être intime, affectif, émotionnel, etc., qui peut-être était plus dérangeant pour elle. Ensuite, conclusion prospective, et j'en ai enfin fini. Donc, comme je l'ai dit, la simulation, c'est que la première étape, refaire des voix de personnalités historiques, c'est bien, cloner des voix, c'est bien, peut-être, ou pas, mais on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, l'intérêt artistique tombe rapidement. Par contre, manipuler, augmenter, dépasser, hybrider, etc., augmenter les capacités vocales de comédiens, d'artistes, etc., ça devient intéressant pour créer une illusion du réel, même en hybridant des choses, on peut faire des sons bestiaux, des arbres parlés, on peut imaginer tout. Et c'est vers ça, donc la simulation réaliste, c'est maîtriser, comprendre le fonctionnement de la voix, de la parole, et réussir à faire en sorte de réussir à contrôler ces paramètres pour obtenir les rendus qu'on souhaite. Et donc, quel modèle d'IA pour ça ? Moi, j'ai envie de dire, alors là, ça va être une référence geek, on va voir si les gens connaissent. Réessayer de réunir le meilleur des deux mondes, donc modèle de connaissances et modèle de données. Hop, la fusion. Hein ? Alors, j'ai emprunté un chercheur, Shivan Mehta, qui avait fait ça dans une présentation, une conférence il y a 2 ans. Mais voilà, est-ce qu'on arrive à réunir les meilleurs des deux mondes pour faire donc de l'apprentissage efficace en données ? C'est une grande, grande question, et pour plein de raisons, et notamment sur la question du rendement, donc rendement versus quantité de données nécessaires pour atteindre ce rendement. Aujourd'hui, on a une recherche performative. Les publications se suivent à un rythme effréné pour augmenter toujours plus la qualité de la synthèse. Moi, j'estime que la qualité, elle est déjà excellente et qu'on utilise toujours plus de données pour augmenter toujours plus la qualité et qu'en fait, la formulation du problème qu'on doit envisager au point de vue des données, c'est de dire, je vise cette qualité et je veux y arriver le plus rapidement possible. Et comment on y arrive ? Donc ça, c'est un vrai axe de recherche qui est vraiment extrêmement important pour les années à venir. Et évidemment, des modèles qui sont adaptables, composables, pour recomposer, par exemple, hybrider des sons différents, un arbre avec une voix, par exemple, ou n'importe quoi, interprétables, et pour créer des nouvelles interfaces, de nouveaux instruments, donc pas que de musique, hein, mais d'instruments technologiques, pour créer de la synthèse sonore. Et je vous remercie. Passe la parole à Barbara.